Le petit Johannes, chapitre 2. Dans la torpeur du crépuscule d'été, l'étang sommeillait. Le soleil, là, semblait un moment, avant de sombrer, se reposer sur la crête lointaine des dunes. Il se reflétait tout entier dans les eaux tranquilles. Le feuillage du hêtre qui croissait sur la rive mettait à profit le calme de l'heure pour se contempler dans le miroir éclatant. Un héron solitaire, sujet sur une patte entre les nénuphars, oubliait qu'il était sorti pour chasser les grenouilles et, méditatif, contemplait le bout de son long bec. Voici Johannes qui vient sur la pelouse admirer la grotte d'or des nuages. Plomb, plomb, des grenouilles font le plongeon, l'onde se ride, la face du soleil se brise en longues moires et les feuilles du hêtre murmurent, contrariées, car elle n'avait pas fini de se mirer. Une vieille barque était attachée aux racines nues du hêtre. Johannes avait reçu la défense formelle d'y monter. Mais jamais la séduction n'avait été aussi forte que ce soir. Déjà la nuée érigeait au ciel un porche triomphal. Des nuages se rangeaient, bardés d'heures, pour faire au soleil une escorte. La surface de l'eau resplendissait, et de pourpres étincelles rasaient, pareil à des volées de flèches, les roseaux de la berge. Lentement, Johannes denoua l'amarre, or, cinglé parmi cette magnificence. Presto avait déjà bondi dans la barque, et avant même que son maître en eût conçu le vœu, les jonques s'écartèrent et la barque glissa vers le soleil. Johannes était couché à l'avant et contemplait les profondeurs lumineuses de la grotte. « des ailes, pensait-il, fuir là-bas. » Le soleil disparut, les nuages continuaient de flamboyer. À l'horizon opposé, le ciel était d'un bleu turquin, sur quoi le feuillage mince et pâle des saules, enfui au bord de l'étang, ressortait comme une splendide dentelle d'un vert léger. « Chut ! Qu'y a-t-il ? » Un frisselis passait sur le miroir des eaux, pareil à un souffle qui les ridait. Cela venait des dunes, de la grotte des nuages. Johannes, en se retournant, vit, sur le bord de la barque, une libellule bleue. D'aussi grande, certes, il n'en avait jamais rencontré. Immobile, les ailes de l'insecte ne cessaient de vibrer, et la pointe semblait tracer un hymne de lumière. « Ce doit être un papillon de feu, » se dit-il. « L'espèce en est fort rare. » Pourtant le cercle que formaient les ailes en frémissant s'agrandissait, et Johannes ne distingua plus qu'une lueur vaporeuse où, peu à peu, se mirent à briller deux yeux sombres. Et un elfe, d'azur vêtu, se trouva soudain à la place de la libellule. Ses cheveux blonds s'enguirlandaient de liserons blancs, et à ses épaules, deux élytres se diapraient de mille reflets comme les bulles de savon. Johannes frissonna de bonheur. « Un miracle ! C'était un miracle !»« Soyons amis, » fit-il. C'était une façon bien singulière d'interpeller un étranger. Mais les circonstances n'étaient pas ordinaires. Il avait le sentiment de connaître déjà de longue date ce personnage tout habillé de bleu. « Je veux bien, Johannes, » répondit l'elfe. La voix ressemblait au frôlement des roseaux dans la brise du soir, au bruissement de la pluie dans les frondaisons de la forêt. « Comment te nommes-tu ? » demanda Johannes. « Je suis né dans la corolle d'un liseron. Appelle-moi Liseron. » Et Liseron sourit à Johannes avec un regard si direct et si confiant que celui-ci en éprouva dans son cœur une aise infinie. « Je fête aujourd'hui mon anniversaire, » dit l'elfe. « Je naquis dans ces parages du premier rayon de la lune et du dernier rayon du soleil. Le soleil est mon père. Il est d'ailleurs le père de toutes choses, et ce nom est le seul qui lui sied. » Johannes prit le ferme propos de dire le lendemain à l'école « le père de toutes choses » en parlant du soleil. « Et vois, au ciel se montre le pâle visage de ma mère. Ah, mère, comme tu me parais à la fois douce et affligée !» L'elfe s'était tourné vers l'horizon. La lune, dans son plein, s'élevait dans la grisaille du crépuscule, derrière la dentelure des saules qui se dessinait en noir sur le disque de lumière. Vraiment, elle semblait attristée. « Voyons, mère, ce n'est rien. Ne puis-je pas me fier à lui ?» L'elfe agita avec allégresse ses ailes qui s'émaillaient de mille feux. Entre ses doigts, il tenait un calice d'iris dont il effleura la joue de l'enfant. « Vous êtes le premier homme que j'approche, et ma mère trouve mal que je le fasse. Mais j'ai confiance en vous, et je sais que jamais, au grand jamais, vous ne prononcerez mon nom ni ne parlerez de moi devant les hommes. Fait-on le serment ?»« Non, Liceron, je le jure, » dit Johannes. Cette rencontre le prenait tellement au dépourvu, il se trouvait si ineffablement heureux, que la peur le dominait de perdre son bonheur. Était-ce un rêve? À son côté, sur le banc, Prasto, étendu, dormait d'un calme sommeil, et à sentir contre lui le souffle chaud de son chant, Johannes se tranquillisa. Des essaims de moucherons, tout comme jadis, dansaient dans l'air tiède, au-dessus des eaux. Les choses environnantes avaient une telle netteté, une telle apparence de réalité, que Johannes ne pouvait se croire la dupe d'un mirage, et constamment reposait sur lui le confiant regard de Liceron. De nouveau chanta la voix caressante. « Je vous ai vu souvent, Johannes. Savez-vous où j'étais? Parfois, du fond de l'étang, je vous apercevais à travers les plantes marines, quand vous vous penchiez sur le bord pour boire ou regarder les salamandres et les scarabées d'eau. Je vous guettais aussi d'entre les roseaux épais. Je m'y tiens fréquemment. J'y dors lorsqu'il fait chaud. Rien n'est plus mouilleux que le nid abandonné d'une fauvette. » Liceron se balançait, ravi, sur le bord de la barque. Il agitait sa fleur pour éloigner les moucherons. « Et maintenant, je viens vous tenir compagnie. Autrement, elle est bien monotone, votre existence. Nous serons de bonnes amies. Je vous ferai de longues histoires qui vaudront infiniment mieux que celles que roba votre maître d'école, lequel est d'ailleurs d'une grasse ignorance. Si vous demeurez incrédule, je vous ferai voir, entendre, toucher du doigt les merveilles. Je vous emmènerai. « Quoi ? Liceron, vous pouvez m'emporter là-bas ? » s'écria Johannes. Il montrait le ciel où tantôt le soleil avait resplendi sous la voûte d'or des nuées. Déjà elle se fondait et s'éteignait, quoiqu'un éclat d'une pourpre pâlie rayonna encore au fond d'abîmes lointains. Liceron contemplait ses lumières. Le reflet éclairait son visage et sa blonde chevelure. Doucement, il secoua la tête. « Pas maintenant, pas maintenant, Johannes. Il ne faut pas que tu sois d'emblée si exigeant. Moi-même, je ne suis jamais allé auprès de mon père. » « Moi, je ne me suis jamais éloigné du mien, » repartit Johannes. « Ce n'est pas votre père. Nous sommes frères tous deux, et mon père est aussi le vôtre. » Mais la terre fut servie de mère, et de là vient que nous différons tant. Vous êtes né dans une maison parmi les hommes, moi au cœur d'une fleur. Mon berceau est assurément meilleur, mais cela n'empêche pas que nous nous entendions à souhait. » Alors Liceron sauta légèrement sur le bord de la barque et posa un baiser au front de Johannes. Ce fut comme si tout se transformait autour de lui. Il voyait mieux et plus exactement les choses, lui semblait-il. La lune le considérait beaucoup plus amicalement, et il aperçut que les nénuphars avaient des visages qui le regardaient, étonnés et pensifs. Brusquement, il comprit pourquoi les moustiques dansaient et tournoyaient si gaiement jusqu'à ce que, de leurs longues pattes, ils frôlaient les eaux. C'était une chose à laquelle il avait déjà réfléchi, mais maintenant il la comprenait tout naturellement. De même, il entendait les confidences des roseaux. Les arbres de la berge regrettaient doucement le soleil en allée. Oh, Liceron, merci! Que de délices, que de joie nous partagerons ensemble! Tendez-moi la main, dit Liceron, en déployant ses ailes aux changeantes nuances. Et il tira la barque entre les feuilles luisantes des nénuphars. Sur quelques-unes s'accroupissait une grenouille. Maintenant, à l'approche de Johannes, au lieu que la peur les fit sauter dans l'eau, Elle lui tira leur révérence en disant « Quack !» Johannes répondit poliment et saluait. Il tenait par-dessus tout à ce qu'on ne le crût pas infatué de son nouvel état. Il s'était approché des roseaux. La barque entière y disparut sans qu'elle pût aborder à la rive. Johannes se cramponna à son guide et après une pénible escalade, ils mirent pied à terre. Johannes se figura être devenu plus petit et plus léger. Sans doute se forgeait-il cette idée. Pourtant, il ne se souvenait point d'avoir jamais grimpé le long d'une tige de roseau. « Ouvre bien tes yeux à ce que tu vas voir, » dit Liceron. Ils cheminaient entre les hautes herbes, sous des broussailles touffues qui perçaient çà et là un rayon argenté. « Avez-vous parfois, le soir, entendu les grillons dans les dunes ?» demanda Liceron. « On croirait un concert et on ne sait jamais d'où vient le bruit. N'allez pas croire que les grillons chantent ainsi pour leur amusement. Non, c'est l'école que vous entendez où des centaines de petites apprennent tout haut de leurs leçons. Taisez-vous, nous sommes tout prêts. »« Cri ! Cri !» Les broussailles s'éclaircissaient. Et, comme Liceron, avec sa fleur d'iris, écartait les herbes, Johannes découvrit une petite clairière où, parmi le maigre gazon des dunes, se tenait la classe. « Crie ! Crie !» Le maître, un gros crayon, écoutait. Les uns après les autres, les écoliers venaient, d'un saut, se poser devant lui, puis, la leçon dite, d'un bond en arrière, allaient reprendre leur place. Qui faisait un faux pas devait se mettre en pénitence sur un champignon. « Écoutez, dit Liceron, et peut-être tirerez-vous aussi profit de ce que vous entendrez. » Johannes saisissait très bien les réponses. Mais cet enseignement ne ressemblait en rien à celui qu'il avait reçu. On fit d'abord de la géographie. Des cinq parties du monde, les grillons ignoraient tout. On leur demandait les noms de 26 dunes et de 2 étangs. Des contrées situées au-delà, nous ne pouvaient, assura le professeur, rien savoir, et les récits qu'on en faisait étaient de la pure fantaisie. Ensuite, la botanique eut son tour. Dans cette branche, les grillons étaient très ferrés et beaucoup de bons points furent distribués. La zoologie déconcerta Johannes. Les animaux se trouvaient rangés selon qu'ils volaient, sautaient ou rampaient. Les grillons, ayant à la fois des ailes et des pattes, venaient en tête et après eux les grenouilles. Avec force témoignage d'horreur, les oiseaux furent déclarés nuisibles et dangereux. Enfin, l'on s'occupa des hommes. C'étaient des êtres malfaisants, placés en somme assez bas sur l'échelle, incapables qu'ils étaient de voler et de sauter, et formant une espèce dont les individus étaient heureusement rares. Un jeune grillon, encore quelque peu novice, reçoit 3 coups de férue pour avoir, par mégarde, cité l'homme parmi les animaux utiles. Jamais encore, Johannes n'avait rien entendu de tel. Soudain, le maître cria « Silence ! Exercice d'assouplissement !» Les petits grillons, d'un coup, cessèrent de réciter leurs leçons et se mirent, avec une agilité surprenante, à jouer aux sautes de moutons, le gros maître d'école en tête. Spectacle si divertissant que Johannes, ravi, battit des mains. À ce bruit, toute la classe, en un clin d'œil, se dispersa et la clairière reprit sa tranquillité coutumière. « C'est votre faute, Johannes !» s'écria Liceron. « Ne vous conduisez donc plus comme un maladroit. On ne voit que trop que vous êtes né parmi les hommes. Je suis au désespoir et dorénavant je me surveillerai. Mais je trouvais ça si drôle. » La suite ne le sera pas moins, ajouta l'elfe. Après avoir franchi la petite pelouse, ils gravirent la dune. Ah, que c'était dur de piétiner dans le sable! Mais, dès que Johannes eut saisi l'elfe par le bas de sa robe bleue, il s'éleva aussi léger et rapide qu'un souffle. À mi-chemin s'ouvra un terrier. À l'entrée était couché un lapin dont le museau et la patte dépassaient le seuil. Les roses des dunes fleurissaient encore, et leurs délicates senteurs se mêlaient aux haleines des thymes qui croissaient au sommet. Johannes avaient vu souvent des lapereaux effrayés se clapir dans leurs trous, ils s'étaient dit « Que ne puis-je les suivre, voir à combien ils s'y tiennent et s'ils y sont à l'aise ?» Aussi, sa joie fut-elle grande en entendant Liseron demander au lapin de visiter sa demeure. « Pour ma part, je n'y vois pas d'inconvénient, répondit-il, mais vous tombez mal. Ce soir, j'ai cédé mon terrier pour une fête charité, de sorte que je ne suis plus le maître chez moi. Est-il arrivé quelque malheur ?»« Hé là, dit le jeune lapin d'un air désolé, une vraie calamité. Et des années nous seront nécessaires pour réparer le dommage. À un millier de bonds d'ici, des hommes accompagnés de chiens ont bâti leur logis. Depuis, 7 membres de ma famille ont été massacrés et un nombre 3 fois plus grand a été arraché vivant à ses foyers. La tribu des souris et des taupes n'est guère mieux partagée. Les crapauds aussi ont eu beaucoup à souffrir. Nous avons donc organisé un bal au bénéfice des survivants. Chacun y est allé du sien. Moi, je prête mon terrier. Ne faut-il pas faire quelque chose pour son prochain ? Le lapin, compatissant, poussa un soupir et, d'un coup de patte, ramena sa longue oreille sur son museau pour y essuyer une larme. Chez le lapin, l'oreille fait office de mouchoir. Un frémissement passa dans les genêts. Une forme épaisse avançait pesamment vers le terrier. « Voici venir, tout égrillard, s'écria Liseron, le père crapaud. Décidément, tu n'aimes pas à te laver, et je te vois toujours également gras de la peau, crapaud. » La bête fit la sourde. Depuis si longtemps, on brocardait sur son nom. Sans hâte, elle déposa devant le seuil un lourd épi soigneusement roulé dans une feuille sèche, puis, en passant adroitement par-dessus le dos du lapin, se coula dans le terrier. « Pouvons-nous entrer ?» demanda Johannes, qui ne se tenait pas de curiosité. « Je vous donnerai ce que j'ai. » Il se rappelait avoir dans sa poche un petit biscuit rond de Hundley et Palmer. En voulant le prendre, il constata, pour la première fois, combien sa taille s'était rapetissée. Il lui fallait les 2 mains pour soulever le biscuit. Il ne parvenait pas à se représenter comment la poche de sa culotte avait pu le contenir. « Quelle rare et précieuse offrande !» s'écria le jeune lapin. Respectueusement, il s'effaça pour permettre à Johannes et à son compagnon de passer. À l'intérieur, il faisait obscur et Johannes, par prudence, marcha le second. Bientôt, il aperçut une lumière verdâtre qui s'approchait. C'était un ver luisant qui s'offrit obligeamment à les éclairer. « Tout fait prévoir une soirée charmante, » dit le ver luisant en les précédant. « Beaucoup d'invités sont déjà là. Vous êtes des elfes, à ce qu'il me semble. » Ce disant, le ver luisant dévisageait Johannes d'un air soupçonneux. « En effet, annoncez-nous comme tel, » répondit Liseron. « Vous savez que votre roi est des nôtres, » continua l'insecte. « Vraiment, Oberon est ici, cela me fait le plus grand plaisir. Nous sommes, lui et moi, très liés. » « Ah ! Bégaya la bestiole, je ne savais pas, je ne pouvais me douter, que j'eusse l'honneur. » Et sa petite lanterne s'éteignit presque dès moi. « Sa Majesté, dit Liseron, n'aime pas de s'enfermer entre 4 murs. Pourtant, quand il s'agit de bienfaisance, elle ne se fait jamais prier. Votre fête ne peut manquer d'être splendide. » La grande salle était en effet parée avec magnificence. Le sol battu se jonchait de tim. En travers de l'entrée, pendait une chauve-souris qui annonçait à plein voix les invités, tout en servant de draperie. Les parois étaient décorées de feuilles sèches, de toiles d'araignées et de guirlandes de petites chauves-souris. D'innombrables vers luisants erraient jusque sur le plafond et répandaient une mouvante lumière du plus ravissant effet. Au bout de la salle, s'érigea un trône fait de petits morceaux de bois vermoulu et phosphorescent. C'était le plus bel aspect. Il y avait foule. Johannes ne se sentait guère à l'aise dans cette cohue étrange, se pressait contre Liseron. Maintes choses le déroutaient. Une taupe discutait vivement avec un mulot sur l'éclairage et la décoration de la salle. Dans un coin, deux crapauds, face à face, déploraient, en hochant la tête, la sécheresse persistante. Une grenouille, au bras d'un lézard, s'efforçait de faire le tour de la salle. Cela n'allait guère. Dans son affairement, la pauvre faisait des enjambées énormes et heurtait parfois les murs, au grand détriment des accessoires qui y pendaient. Sur le trône était assis Oberon, entouré de quelques elfes qui abaissaient des regards légèrement dédaigneux sur l'entourage. Le roi, selon la coutume des princes, était on ne peut plus aimable et s'entretenait familièrement avec ses hôtes. Il rentrait d'un voyage en Orient et portait un costume singulier fait de pétales éclatantes. Un calice bleu sombre et frais cueilli le coiffait, autour duquel flottait un cœur des senteurs. En guise de sceptre, il élevait dans sa main le pestis d'une fleur de lotus. « Ici ne croisent point de telles fleurs, » pensa Johannes. Les assistants louaient à l'envi la bonne grâce du souverain. N'avait-il pas fait l'éloge du clair de lune qui rayonnait sur les dunes et assuré au ver luisant qu'il égalait en éclat les lucioles des pays chauds? D'un regard satisfait, il avait considéré les murailles et une taupe l'avait même surpris, hochant la tête en signe d'assentiment. « Suivez-moi, » dit Liseron, « je vais vous présenter. » Ils se frayèrent un chemin à travers la foule jusqu'au fauteuil du roi. Oberon, plein de joie en reconnaissant Liseron, l'embrassa. Un murmure s'éleva dans l'assistance et les elfes eurent des regards d'envie. Les deux gros crapauds, dans leur coin, grommelaient « Flagorneur, courtisan, faveur éphémère », puis échangeaient un clin d'œil en gens avertis. Liseron dit quelques mots au roi dans une langue inconnue et fit signe à Johannes d'approcher. « Votre main, Johannes, » demanda le roi, « les amis de Liseron sont aussi les miens. Partout où je le pourrai, je vous protégerai, et permettez-moi de vous donner un gage des liens que nous unissent désormais. » Oberon détacha de son collier une clé d'or et la remit à Johannes, qui la reçut avec la plus profonde déférence et la garda serrée dans sa main. « De cette clé peut dépendre votre bonheur, » continua le roi. « Elle ouvre un coffret qui recèle le plus précieux des trésors. Mais je ne saurais vous dire où est ce coffret. » Vous devez le chercher sans relâche, et, pourvu que vous soyez pour Liseron et moi un ami constant et fidèle, vous finirez par le trouver. » Ensuite, le roi des elfes salua cordialement. Johannes, au comble du ravissement, lui exprima toute sa reconnaissance. Alors, deux ranettes, assises sur un tertre de mousse fraîche, préludèrent à une vase lente. Des couples se formèrent. Un petit lézard vert, sans cesse à courir à droite et à gauche en se dandinant, remplissait de son mieux l'office de maître de cérémonie et faisait reculer dans les coins la foule de ceux qui ne dansaient pas, au grand dépit des deux crapauds qui se plaignaient de ne rien voir. Le spectacle était vraiment réjouissant. Chacun valsait à sa manière, se figurant naturellement qu'il était le seul à bien le faire. Les souris et les grenouilles sautaient hautes sur leur arrière-train. Un vieux rat tournoyait avec tant de frénésie qu'il obligeait tout le monde à se garer. Un escargot bien gras se laissa inviter par une taupe, mais bientôt il renonça sous le prétexte d'un point de côté. La vraie raison, c'est qu'il ne savait pas valser. Tout s'accomplissait avec une gravité solennelle. Les bêtes dansaient de leur mieux pour l'acquis de leur conscience et guettait le visage du roi afin d'y surprendre un signe approbateur. Mais le roi, dans la crainte de faire des jaloux, regardait indifféremment devant soi. Sa cour, elle, jugeait au-dessous d'elle de s'intéresser à la fête. Johannes avait réussi à garder son sérieux, mais, quand il vit un petit crapaud polkaire aux pattes d'un long lézard, qui le soulevait de terre en le faisant tournoyer dans les airs, il ne put se contenir et sa gaieté éclata bruyamment. Grand émoi, l'orchestre se tait. Le roi, courroucé, se retourne. Le maître de cérémonie accourt ventre à terre, sue au rieur et lui enjoint de respecter au moins les usages. « Danser est une affaire d'importance, dit-il, et qui ne prête pas à rire. Vous vous trouvez ici en bonne compagnie. Personne n'y tient à être la risée d'autrui. Agir comme vous le faites est une inconvenance. Au surplus, ce bal se donne dans un but de charité et à la suite d'un événement douloureux. Il faut se comporter honnêtement ici et non à la façon des hommes entre eux. » Johannes eut peur. Partout se dardaient sur lui des jeux hostiles. La faveur qui lui témoigna le roi avait dépité beaucoup de gens. Liceron le tira à part. « Mieux vaut que nous partions, Johannes, » dit-il à voix basse. « Vous venez une fois de plus de commettre un impair. Voilà ce que c'est que d'avoir été élevé chez les hommes. » Prestement, ils se glissèrent sous les ailes de la chauve-souris et arrivèrent dans le noir vestibule. Le ver luisant les y attendait. « Vous êtes-vous bien amusés ? » demanda-t-il. « Avez-vous parlé au roi Oberon ?»« Ah, oui, c'est une fête vraiment gaie, » fit Johannes. « Mais pourquoi restez-vous dans ce couloir obscur ?»« Je le fais, » répondit le ver luisant d'un ton désolé et plein d'amertume, « parce que je suis revenu de ce vain plaisir. » « Voyons, voyons, vous le dites et n'en croyez rien, » repartit Liceron. « Si, je parle sincèrement. Autrefois. Autrefois, il fut un temps où je courais les fêtes, où je dansais, étiché de toutes ces frivolités. Mais j'ai souffert. Mon âme s'est exaltée et maintenant... » Il était si remué qu'à nouveau sa lanterne s'obscurcit. Par bonheur, l'on était près du seuil. Le jeune lapin se rangea et un rayon de lune pénétra. Dès qu'ils furent dehors, Johannes demanda « Allons, conte-nous ton histoire, ver luisant. » « Et là, soupira-t-il, elle est toute unie, bien triste, et ne vous divertira guère. » « Racontez quand même, » dirent en chœur Liceron, Johannes et le jeune lapin. « Vous savez tout que nous sommes des créatures tout à fait à part et nul n'osera, je crois, contester que les vers luisants sont ici-bas des êtres supérieurement doués. »« Supérieurement doués ? » fit le jeune lapin. « Et en quoi donc ? Je l'ignore. »« Pouvez-vous, » demanda avec dédain le vers luisant, « répandre de la lumière ?»« Ça, non, » reconnut le lapin. « Nous rayonnons, et notre flamme, nous la faisons resplendir ou nous l'étouffons à notre gré. La lumière n'est-elle pas le plus bel apanage, la répandre la plus haute destinée à laquelle puisse atteindre une créature? Quelqu'un niera-t-il encore notre prééminence? Nous, les mâles, nous avons en outre des ailes et nous nous transportons à des lieux de distance. Je ne pourrais non plus en faire autant, reconnut humblement le jeune lapin. Grâce à ces faveurs dont Dieu nous combla, les animaux nous vénèrent et aucun jamais n'a songé à nous attaquer. Un seul, il est vrai, le plus vil de tous, le monstre le plus abject de la terre, nous poursuit et nous capture. À ce mot, Johannes regarda Liceron comme s'il ne comprenait pas. Mais Liceron sourit en lui faisant signe de se taire. Un soir, je voltigeais, lueur errante entre les noirs arbustes. Je l'aperçus, au bord d'un fossé, sur une motte d'herbe humide où elle avait sa retraite. Elle rayonnait dans le gazon, suprêmement belle, pareille à une pâle émeraude, et sa vue émerveilla mon jeune cœur. Je voletais autour d'elle, en variant l'éclat de mes clartés, et quand, après avoir remarqué mes hommages, elle baissa pudiquement sa lumière, mon cœur s'emplit de gratitude. Frémissant d'émoi, j'allais joindre en prière le bout de mes ailes et me laisser choir aux genoux de mon amante lorsqu'un fracas retentit dans les airs. Des masses sombres s'approchaient. Des hommes! Précipitamment, je pris la fuite. Ils me poursuivirent, tentant de me saisir. Mais mes ailes étaient plus agiles que leurs lourdes jambes. À mon retour... Ici, le conteur fut pendant un long moment si affecté qui dut s'interrompre. Nous demeurions silencieux et pleins de déférence. Enfin, il reprit. Vous devinez le reste. Ma tendre fiancée, elle, la plus resplendissante entre toutes, n'était plus. Des hommes, dont leur scélératesse l'avait emportée. Sa place favorite au bord humide du fossé était déserte et ténébreuse. La motte d'herbe si paisible jadis était piétinée. Je restais désormais seul au monde. Le jeune lapin, à l'âme compatissante, rabaissa son oreille pour sécher un pleur. Depuis ce soir funeste, je ne suis plus le même. Les futiles divertissements m'inspirent de la rancœur. Mes pensées vont toutes à celle que j'ai perdue, et je ne me préoccupe que de l'heure où je la rejoindrai. Quoi ? Nourrissez-vous cet espoir ? Interrompit le jeune lapin, réjoui. Bien plus, j'en ai la certitude. Là-haut, je retrouverai mon amante. Mais, voulut encore interrompre le lapin. Lapin, fit le fer luisante, je puis admettre que les animaux qui tâtonnent dans les ténèbres soient en proie au doute. Mais cette infirmité m'est toujours demeurée une énigme chez ceux dont les yeux aperçoivent la lumière. Voilà. Et le fer luisant leva pieusement ses regards vers le ciel étincelant d'étoiles. Voilà mes aïeux, mes parents, et aussi mon amante, qu'environne un éclat plus radieux qu'ici-bas sur terre. Et là, quand pourrais-je m'évader de cette vile existence et m'élever jusqu'à elle, qui m'appelle? Quand? Et là, quand? Profondément affligé, le fer luisant laissa ses auditeurs et rentra dans le terrier. « Pauvre créature, conclut le lapin, pourvu que ce ne soit pas un leurre. »« Je l'espère aussi, ajouta Johannes. « J'ai quelques craintes du contraire, dit Liseron, mais son histoire était fort touchante. »« Cher Liseron, fit Johannes, je suis là et je tombe de sommeil. Venez près de moi, je vous couvrirai de mon manteau. » Liseron défit son manteau d'azur et l'étendit sur Johannes et sur lui-même. Ainsi ils se couchèrent dans la mousse embaumée, au penchant de la dune, doucement enlacée. « Vos têtes sont un peu basses, » cria le jeune lapin. « Voulez-vous que je vous serve de chevet ?»« Bonsoir, maman, » dit Liseron à la lune. Johannes serra dans sa main la clé d'or. Il appuya sa tête contre le poil soyeux du jeune lapin, et s'endormit.